Bonjour et bienvenue à Droit positif, un balado de la Coccida où on jase des droits, de VIH et des réalités des personnes vivant avec le VIH. Moi, c'est Hugues Lefebvre-Maras. Je suis membre du conseil d'administration d'espace LGBTQ+, père aidant à la Maison plein cœur depuis 2015 et je suis une personne séropositive.
Et moi, c'est Charlie Morin, je suis podcasteur et chargé de communication pour Coalition Plus, une coalition internationale d'organismes de prévention VIH. Aujourd'hui, à Droit positif, on parle de représentation du VIH dans les médias.
Et avant de se lancer dans le vif du sujet, on tient à rappeler à nos auditeurs et nos auditrices que certaines informations qui seront discutées dans cet épisode sont de nature juridique, mais ne constituent pas pour autant des conseils juridiques. Si c'est ce dont vous avez besoin, on vous encourage à consulter un ou une avocate. Hello Charlie!
Allô Hugues, ça va?
Ça va pas pire, toi?
Ça va.
Mais là, aujourd'hui, on jase de représentation du VIH dans les médias, mais aussi de VIH comme sujet dans les médias. Puis qui de mieux pour nous parler de ça que Denis Martin Chabot, journaliste, auteur et animateur qui vit ouvertement avec son identité queer et avec le VIH. Rien que ça. Salut Denis Martin!
Salut, ça va bien?
Oui, toi aussi, merci d'être à Droit positif.
Ben oui, ben bon début d'année en fait, hein? Merci de m'inviter.
Ça fait plaisir.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets une question préliminaire.
On aime les préliminaires.
On aime les préliminaires. dans le fond, veux-tu mettre nos auditeurs auditrices en contexte sur ton background, parce que tu as travaillé longtemps pour un petit média émergent du nom de Radio-Canada. Mais il y a quand même un bout de ta carrière dans ce petit média insignifiant où tu ne t'affichais pas ouvertement comme personne vivant avec le VIH.
Et ben, au départ, même comme personne avec une identité queer, non, parce que, regarde, à l'âge que j'ai, en recul, au moment où j'ai commencé à faire de la radio et de la télévision, c'était pas une époque où c'était très bien vu d'être queer. Alors, c'est sûr que j'ai gardé ça pour moi jusqu'à un moment où j'ai senti que j'avais plus le choix de le cacher. Et l'identité, en fait, mon statut sérologique, ben, c'est clair que j'en ai pas beaucoup parlé. En fait, j'en ai parlé quand j'ai pris ma retraite. Je me sens un peu poltron d'avoir fait ça, mais c'était ça où je me faisais exclure des bonnes affectations. Alors, parce que j'avais pas confiance. Et c'est sûr que peut-être que maintenant les choses seraient différentes, mais dans mon temps, c'était un peu comme ça.
Sache que ici, dans notre grand média, tu sais, t'as comme gradué d'un petit média comme Radio-Can à un très grand média comme Droit positif, mais ici, tes identités ne te causeront aucun tort, au contraire. Mais merci de partager ça. Mais justement, quand on parle de VIH dans les médias, ça passe très souvent par une forme ou une autre de témoignage. Pour toi, c'est quoi la manifestation type de la manière dont les médias vont parler du VIH?
Ben, c'est toujours le type de cette pauvre personne est une victime du VIH. T'sais, c'est toujours dans la victimisation, le nous versus eux. Je crois que c'était peut-être une façon de faire qui était bonne à une certaine époque. Je pense que ça passe plus. Moi, ce que ça me donne comme idée, c'est que ça touche un groupe loin de nous. Et ça ne peut pas nous atteindre, nous. Et ça fait en sorte que les gens sont comme désensibilisés vis-à-vis ça. Et puis, on commence à stigmatiser, en fait. On stigmatise les gens en faisant ce genre de présentation-là dans les médias. Alors, moi, dans ma carrière, même si je n'étais pas ouvertement une personne vivant avec le VIH, j'en ai pas parlé, je me suis quand même battu contre ça. Et puis, c'est pas parce que les gens sont méchants, c'est un peu, c'était systémique. Ça l'est encore, j'avoue, quand je regarde les infos à la télé ou quand j'écoute les infos à la radio, ça l'est encore pas mal, mais on a vraiment besoin de cesser ce genre de, tu sais, de cette personne-là vit avec le VIH, comme si c'était un fait épouvantable, gros, marquant, et quelque part, je pense qu'on met encore davantage une stigmatisation sur le fait de vivre avec le VIH.
En sortant les violons, puis en, tu sais, c'est ça, c'est toujours dans l'histoire tragique, là.
Ben, moi, je vais faire une comparaison, je vais essayer de faire ça brièvement, mais je vais faire une comparaison. J'étais à l'époque chef de pupitre, et puis un journaliste me présente son texte de reportage. Il faisait un reportage sur une personne qui vit en fauteuil roulant. Alors, qui doit donc avoir à faire face à tous ces obstacles dans la vie. Alors, il me sort, « Monsieur Untel et quadriplégique ou paraplégique, vit dans un fauteuil roulant, toute sa vie dans un fauteuil roulant, ben là, je me dis, on fait de la télé, on le voit bien. Est-ce que tu as besoin de souligner encore davantage avec un stylo rouge cet état de fait-là, alors que ça aurait été beaucoup mieux que chaque jour, monsieur Untel doit faire face au problème de monter à un étage, par exemple, ou de prendre le métro? Alors là, tu n'as pas besoin de tout... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est clair que la personne, visiblement, a une difficulté avec à vivre avec son handicap parce que les choses ne sont pas adaptées, mais est-ce que c'était nécessaire de le souligner? Je fais la même réflexion vis-à-vis le VIH.
Intéressant.
Le milieu des communications puis des médias en particulier change beaucoup avec le temps, les technologies, les moyens de diffusion. Puis dans les 20 dernières années, on a changé complètement notre manière de faire des communications. Est-ce que tu crois que la manière de « faire nouvelle » entre guillemets a une influence particulière sur comment on parle du VIH dans nos médias?
Moi, je trouve pas qu'il y a eu de grandes améliorations. Je suis peut-être un peu la personne qui est le moins optimiste du groupe. Je trouve qu'au contraire, on dirait que les choses ne s'améliorent pas. Je vais encore une fois faire une anecdote, mais ça m'a touché l'été dernier pendant le Festival Fierté Montréal. Je reçois des communications de recherchistes de Radio-Canada parce qu'ils savent maintenant, tu sais, parce que c'est assez évident que je suis une personne queer, tu mets mon nom sur les réseaux sociaux, c'est à peu près partout, là. Et donc, on me contacte pour me dire, c'était l'ouverture de Fierté Montréal, on voudrait faire un reportage sur la variole simienne. On cherche un cas. Et là, tout de suite, là, j'ai grimpé dans les rideaux. Je me dis, ben là, c'est quoi? Alors, on veut stigmatiser encore une fois les hommes queer au début du festival de Fierté Montréal, au moment où on parle de qui nous sommes. Et pourquoi en parler là alors que ça fait des mois que ça durait? Pourquoi là? Pourquoi à ce moment-là? Alors, j'ai refusé d'aider Radio-Canada, mon ancien employeur. J'ai refusé d'embarquer là-dedans. Je les ai même dénoncés sur les réseaux sociaux. Parce que ça, pour moi, c'est un exemple. Ah, là, il faut parler des... Il faut parler des personnes LGBTQ et un plus. On va en parler avec... Ah, on va les stigmatiser davantage avec la variole simienne. Alors moi, ça m'a tellement outré. Comme je dis, je l'ai dénoncé. Et je pense moi, c'est un signe qu'on ne s'améliore pas.
Ouais, je vois. C'est comme ramener le spectre de la contagion et de la viralité qui faisait un retour dans la communauté. Puis je pense aussi, tu sais, comme justement le changement dans les médias, c'est aussi beaucoup, on s'en va vers des formats de plus en plus courts. Fait que peut-être que je vois là aussi un truc d'avoir des accroches plus sensationnalistes, capter l'attention plus rapidement. Puis ça fait que, ben, pour pogner, comme on dit, ben, ça prend des trucs des fois un peu plus punchés et sensationnalistes.
Tu sais que je lisais récemment que l'attention d'une personne maintenant, c'est 50 secondes. Alors moi, quand j'ai commencé dans les médias, on faisait des reportages qui duraient 2 minutes à la télévision, parfois même jusqu'à 2 minutes 30. Quand j'ai quitté Radio-Canada, nous étions à 1 minute 30. Tu peux pas dire grand-chose en 1 minute. Tu n'as pas beaucoup de place pour la nuance. Et je pense que l'arrivée des réseaux sociaux, les 140 ou maintenant 280 caractères de Twitter, ça ne nous aide pas. Et surtout, l'arrivée des réseaux sociaux fait en sorte qu'on n'a pas... Les gens peuvent publier ce qu'ils veulent et n'ont pas le même fardeau que moi j'ai comme journaliste professionnel de faire mes recherches, d'avoir des sources, d'être ce que j'avance est sourcé. Excusez-moi le néologisme, mais on doit sourcer. Ça prend 2 sources habituellement indépendantes pour animer, pour arriver à faire une affirmation. Puis encore, quand on n'est pas certain, on va le dire. Ce que tu ne retrouves pas dans les réseaux sociaux, c'est du gros n'importe quoi. Et je vois que ce gros n'importe quoi-là, ben, on commence à le voir dans certains médias. Aux États-Unis, c'est épouvantable. On nommera pas les Fox News de ce monde, mais on voit que ça déteint. Et moi, je suis pessimiste là-dessus. Je suis vraiment, vraiment... Je vois pas l'amélioration là, à ce moment-ci.
Je pense qu'il y a aussi comme un truc où les médias se spécialisent pour des audiences qui cherchent des choses en particulier, là. Puis t'as un type d'audience qui veut se sentir smart de savoir des enjeux spécifiques sur des populations marginalisées, t'sais. Fait que là, mettons, là, pour ces gens-là, c'est Pride, puis là, ils veulent savoir c'est quoi, genre, les enjeux spécifiques auxquels les hommes gays font face maintenant. Fait que là, ils veulent se faire parler de monkeypox, puis être capable de dire « Ah oui, moi, je sais, je connais nanana », t'sais. Alors que c'est vraiment pour flatter leur vanité à eux, elles, de savoir versus... c'est pas utile que tu saches là maintenant, là, c'est utile que tu saches là 2 mois. Ça fait un bout que ça dure, mais tu sais, là, maintenant, c'est vraiment juste profiter d'un espèce de moment de hype pour te faire te sentir inclus dans la lutte des enjeux de ces personnes-là. Mais juste pour flatter ton ego, dans le fond, là, tu sais. Parlant de flatter l'ego, j'ai envie de flatter l'ego d'un de mes collègues que j'aime beaucoup et qui est vraiment le fun et qui va venir se joindre à nous pour une conversation. Allez, segway! Allez, segway! Alors, je vous présente René Légaré, coordonnateur des communications à la Coccida. Comment tu vas, René?
Ça va pas pire, ça va pas pire. Salut Charlie, donc salut tout le monde.
Hello!
As-tu flatté ton ego? Non,
ça, c'est pas ça, ça fait de bien en cette journée où est-ce qu'il y a un peu mal à la tête. Donc, c'est quand même...
Parfait.
All right. Fait que là, René, on l'abordait un peu avec Denis Martin, mais là, on a du sensationnalisme qui joue un rôle important dans le traitement médiatique du VIH. Mais là, toi, en tant que personne qui travaille à construire des messages pour la communauté VIH en tant que coordonnateur des communications, c'est un peu ça ta job. Penses-tu que, vu que le VIH est pas mal lié au sexe puis aux drogues, tout ça dans l'imaginaire collectif, ça influence comment les médias vont parler du VIH?
Oh, certainement, oui. Donc, je considère que ça les influence beaucoup même. J'ai même tendance à penser que l'objectivité n'existe plus lorsqu'il est question de sexe et drogue. Mmh. D'un côté, on a la drogue où est-ce que quand même la société en général et même les médias donc considèrent et perçoivent la consommation et les consommateurs comme des personnes ayant des problématiques qui nécessitent absolument une intervention. Donc, ça peut pas être des personnes qui peuvent consommer juste pour le plaisir de consommer. Quant au sexe, on vit toujours dans un monde où est-ce que est encouragée la sexualité entre un homme et une femme, mais aussi dans le but de créer une famille. Donc, tout ce qui est à l'extérieur de ce cadre-là, c'est nourri par les a priori, les préjugés, la distanciation, même le dégoût, ce qui fait en sorte que les journalistes n'y échappent pas non plus. Ils vivent dans ce monde-là et donc sont influencés par leur propre vision de la sexualité. Et ce que ça donne? Ça donne des articles qui, à l'autre bout, est-ce que... On a un exemple. Moi aussi, je vais y aller avec une anecdote. Lorsqu'il y a eu ce cas, donc, à Sainte-Justine, d'une médecin qui est morte du VIH. Donc, une journaliste de la presse a clairement indiqué dans son article que c'était pas une personne avec une sexualité débridée. Donc, non, là, c'est on nourrit encore l'idée du bon et du mauvais individu, le vivant avec le VIH. Ouais, voilà.
Ben oui, c'est ça, une personne que dans tous les cas, c'est par accident, mais si l'accident est arrivé pendant la sexualité, c'est mal. Si l'accident est arrivé ailleurs, là, c'est correct, t'es une victime, dans le fond.
Tu vois, René a parlé de quelque chose avec un concept qui n'existe pas, qui nous a été, c'est un mythe, on va le déconstruire. L'objectivité en journalisme, ça n'existe pas. Je n'ai jamais été objectif, ça ne se peut pas, je ne peux pas être complètement insensible, pas réagir à ce qui se passe dans mon entourage. Le simple fait que je choisisse ou qu'une salle de nouvelles choisisse de parler d'un sujet fait en sorte que l'objectivité n'existe pas. Et de ne pas reconnaître ça, c'est après ça, c'est de nier tout ce qui nous influence comme personne, parce que, comme René l'a tellement bien dit, nous sommes des journalistes et nous sommes aussi des personnes et nous sommes influencés par notre environnement. Et je pense que en ne faisant pas ça, on ne va pas déconstruire ces mythes-là. Tu sais que c'est toujours la même histoire. Hein? Le VIH, ben, c'est une maladie de gars gay, là, puis qui s'envoie en l'air, puis c'est ci, puis c'est ça. Ben, excusez-moi les amis, moi je me suis impliqué dans un organisme qui s'occupe des personnes vivant avec le VIH, et la moitié des personnes qui viennent chez nous sont des femmes hétérosexuelles. Alors, il faut arrêter. De toute façon, les chiffres le démontrent. Ça, c'est de l'anecdote, mais les chiffres de l'ONU-SIDA le démontrent. C'est à peu près moitié-moitié hommes-femmes qui sont atteints du VIH dans le monde. Peut-être qu'en Occident, c'est plus des hommes gays, mais je vous souligne que dans l'hémisphère sud, c'est plutôt des femmes qui attrapent ça. Alors, je pense que quelque part, c'est à partir du moment où on se laisse imprégner le « Ah, ben ça, c'est pas nous autres, c'est eux », ben on tombe dans ces clichés et dans ces mythes qu'il faut déconstruire.
Oui, tout à fait. Puis le truc avec l'objectivité, c'est pas qu'il faut essayer à tout prix de l'avoir. Tu sais, la subjectivité qui est l'inverse, c'est bien correct d'être subjectif quand on est journaliste ou dans mon cas chercheur. Tu sais, dans le monde académique, il faut juste le dire. C'est quand on le cache puis qu'on prétend être objectif que là, c'est problématique parce que ça passe pour des vérités. Alors que dès qu'on dit que notre point de vue est situé, ben là, c'est plus grave. Là. Comme ça, les gens vont pouvoir recevoir ce qu'on dit, sachant d'où on vient. Tu sais.
Puis tu vas me permettre juste une petite chose que j'ai oublié de dire. L'objectivité, c'est pas quelque chose à laquelle je crois, mais je crois à une certaine neutralité, ou du moins d'admettre que, tu sais, oui, je suis au courant que j'ai un biais, de l'admettre, mais en même temps, à partir du moment que tu le réalises, ben tu fais un effort pour rester aussi, il faut être dans les faits. Il y a des faits aussi qui sont indéniables. Qu'on a... Alors donc, il faut avoir de la rigueur et une certaine neutralité. Oui, donner la chance à d'autres points de vue d'être entendus. Puis je vais vous faire une autre anecdote. Tu sais, l'objectivité, là, ben, ça a créé Donald Trump. C'est ça que ça a créé. Mm-hmm. Au nom d'une certaine, d'un mythe d'objectivité, on a donné autant d'importance aux propos scabreux et mensongers de ce personnage-là qui est devenu président des États-Unis. C'est grave, ça.
Mm-hmm. Fait que sur ce, moi, je vous amènerai à la question niaiseuse. J'avais vraiment envie de savoir pourquoi c'est mal que les médias fassent une obsession avec comment les personnes vivant avec le VIH ont contracté le virus.
Ben là! Écoute, je sais, t'es la personne qui doit poser la question niaiseuse, je te l'avoue, je te réponds pas à toi comme ça. Moi, je vais répondre tout de suite, je vais laisser René peut-être dire des choses, plus être plus gentil que moi. Moi, je suis toujours pour m'en dire que je me suis fait interviewer, là. J'ai passé à des émissions comme à Denis Lévesque, et on m'a demandé combien de fois, comment as-tu attrapé ça? Ben, il y a la réponse pas gentille. Ben là, tu penses quoi? Je suis un homme queer. J'ai-tu besoin de te raconter ce que j'ai fait dans mon lit? Est-ce que tu as besoin de savoir ça? Mais en fait, au-delà de ça, c'est que de poser cette question-là, c'est que ça présuppose que quand tu vas répondre, ben, un peu comme on a dit tantôt, les bonnes personnes qui attrapent le VIH par des accidents quelque part, tu sais, ils se sont coupés puis ils ont eu un contact, ou les méchantes personnes qui se sont injectées des drogues ou qui ont eu des relations sexuelles là, époustouflantes. Là. Alors, tu vois où est-ce que je m'en vais avec ça? Mm-hmm. Alors, pour moi, cette question-là, elle est inutile parce qu'elle comporte, elle sous-entend un jugement de valeur auquel moi, je ne souscris pas.
En fait, je pense carrément la même affaire que Denis Martin. Donc, moi, je trouve que c'est beaucoup aussi pour séparer le bon du mauvais. Il y a aussi tout un concept de s'immiscer dans la vie privée de la personne, vous ne voulez pas, donc aussi, donc c'est vouloir savoir comment la personne l'a attrapé. Mais aussi, ça permet à nourrir ce désir de distanciation avec les personnes vivant avec le VIH. Donc, quand tu sais que la personne devant toi, tu peux la voir comme étant une victime ou sinon comme étant une personne responsable de ce qu'elle a attrapé, mais toi, comme individu qui est une personne responsable, mais pas non plus une victime, donc tu t'assois donc dans ton rôle, OK, je suis pas une personne responsable, je suis une personne responsable plutôt, j'ai jamais été victime de rien, et donc là, je parle avec quelqu'un qui est victime de quelque chose ou qui est responsable de son état. Donc, je trouve que ça permet vraiment de bien distancier donc ce qu'on est, donc ce que le média est avec la personne et avec qui il parle. Donc, c'est ce que j'ajouterais de plus sur ce que Denis Martin a dit.
Ah, mais là, René, c'est intéressant. Tu parles de droit à la vie privée. Puis là, justement, ça me fait poser la question. Est-ce que c'est correct? Si les médias veulent tout le temps parler du statut sérologique de quelqu'un, qu'est-ce qui arrive si cette personne-là est pas d'accord de parler de son statut dans les médias? Je me demande bien qui pourrait répondre à cette question-là.
Unmuté, l'avocat!
Allô, Laurent.
Allô, Laurent.
Ben, salut tout le monde. La réponse à ta question, Hugues, elle se trouve beaucoup dans le contexte, en fait. La notion centrale pour les médias est de savoir si l'information ou le sujet est d'intérêt public. Puis pour considérer cet intérêt public-là, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Par exemple, les tribunaux s'entendent généralement pour dire que si une affaire est judiciarisée, ben ça lui donne un caractère d'intérêt public, hein, parce que la justice a ce principe-là où, à moins d'exception, elle est publique. Fait qu'on doit, entre autres, si ça se rappelle que la justice est publique, mis à part, je parlais des exceptions, si on parle d'ordonnances de non-publication ou de huis clos qui peuvent plus particulièrement s'adresser aux médias. D'un autre côté, il y a aussi les contextes où on va avoir tendance à favoriser la vie privée plutôt que la liberté de presse. Un photographe de presse pourrait pas prendre des photos à l'intérieur d'une clinique VIH, par exemple, avec des photos où on peut clairement identifier des personnes, à moins qu'elles aient donné leur consentement pour participer à ce reportage-là ou pour être représentées, finalement.
OK, je comprends. Fait que là, toute cette notion de consentement est vraiment centrale. Là. Donc, sans consentement, outre, comme tu l'as dit, le cas de cas judiciarisé, c'est pas possible de publier une histoire sur le statut sérologique de quelqu'un.
Mais encore là, pas exactement. Il faut encore revenir vers le contexte, finalement. Si une personne, par exemple, participe à un événement public qui la lie au VIH, mais dans ce cas-là, on va pouvoir diffuser des informations qui la concernent sans son consentement.
Okay.
Si il y a une personne vivant avec le VIH qui participe à une manifestation pour réclamer, par exemple, la fin de la criminalisation du VIH, on pourrait très bien concevoir que ça, c'est un événement d'intérêt public, la manifestation et le sujet qu'elle sous-tend, puis qu'une photo où on peut identifier une personne qui participe à cette manif-là soit publiée sans que ça contrevienne à sa vie privée, ou encore qu'un extrait d'un discours qu'elle prononce où elle se met de l'avant, elle met de l'avant le fait qu'elle vit avec le VIH, soit diffusé aussi. On peut penser, il y a un autre exemple aussi qu'on peut prendre en compte, qui est peut-être encore plus concret que celui que je vous donne là, qui est le récent article qui est paru dans le journal The Guardian sur la star du rugby, Garrett Thomas. Le rugby est moins dans le star system, je pense, en Amérique du Nord, mais Garrett Thomas qui a pris la parole il y a quelques années déjà pour dire qu'il était publiquement une personne vivant avec le VIH. Et dans cet article du Guardian, on y apprend en fait qu'il s'est récemment fait poursuivre par un ex-partenaire au civil pour non-divulgation de son statut, suite justement à sa déclaration publique. Et là, ce serait en fait étonnant qu'en faisant ça, The Guardian s'expose à des conséquences juridiques, si évidemment là, on présume que le droit québécois s'applique.
Ouais.
Parce que The Guardian n'est pas au Québec, mais... Et donc, ça serait étonnant dans le cas de The Guardian qui s'expose à des conséquences parce que même si Thomas n'a sûrement pas donné son consentement pour que l'article sorte, ben c'est une star, c'est une personnalité publique, il avait déjà fait un dévoilement public, donc on peut comprendre ici qu'il n'y a pas d'expectative à ce que sa vie privée soit respectée. Donc finalement, comme on disait tout à l'heure, on parle ici d'un procès, hein, dans le cas de Thomas, d'un procès au civil. Et la justice est publique, donc ça aussi, ça vient jouer dans le fait que The Guardian puisse se prononcer là-dessus, puis en quelque sorte parler de Garrett Thomas comme d'une personne vivant avec le VIH. Mais comme je le disais aussi, le droit a tendance à considérer que certains éléments de la vie des personnalités publiques ben, relèvent de l'intérêt public. Et le rugby étant ce qu'il est de l'autre côté de l'Atlantique, ben, ça aussi, ça fait en sorte que ce sont tous des éléments qui viennent jouer, même si Thomas n'a pas donné son consentement clairement là. Ben, on peut penser qu'il n'y a pas de conséquences juridiques possibles ici pour The Guardian, le journal The Guardian.
Mm-hmm. Fait que dans le fond, une fois que le coming out, le dévoilement public est fait, l'information justement appartient au domaine public, puis là, la personne, mettons, qui anime un podcast, a comme lancé ça dans l'univers et maintenant, le droit à la vie privée s'applique plus vraiment.
Effectivement, faudra toujours, après ça, on pourra toujours... réévaluer le poids de ce dévoilement public-là qui a été fait. Donc, c'est-à-dire que c'est sûr que là, on est à droit positif, c'est un très grand média, on est écouté à l'international.
Tout à fait.
On sait, on a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices en Allemagne, par ailleurs, donc on les salue.
Nice.
C'est sûr que sur un très gros média comme droit positif, effectivement, on peut penser que l'expectative de vie privée est plus basse, mais sans ironie cette fois-ci, évidemment, il faut toujours sous-peser dans quel contexte le dévoilement a été fait. Mais évidemment, quand il y a un caractère public, je dirais que c'est un point du côté de la liberté de presse versus le droit à la vie privée, pardon, si on veut mettre ces deux droits-là fondamentaux en tension entre eux.
Bon, là, on n'arrête pas de dire comment que ça va mal. Puis comment qu'on parle de VIH tout croche, mais quand même, dans le témoignage, il y a quand même des possibilités d'empowerment ou de mettre de l'avant des réalités qu'on veut montrer aussi. Fait que, y a-tu une bonne méthode pour parler de VIH, René?
Je ne dirais pas qu'il y a de bonnes méthodes. Il y a surtout des méthodes, je pense, qui font ses preuves. La COT, donc, on a tendance beaucoup à prioriser les témoignages qui sont... je dirais qu'il apporte donc un plus donc à la vie au fait de vivre avec le VIH. En fait, donc, je peux pas nécessairement parler vraiment de qu'est-ce que la personne va dire comme témoignage, mais je peux te parler comment nous on l'accompagne donc dans le témoignage, donc dans son témoignage. Et nous, ce qu'on fait donc à la cause, c'est qu'on met vraiment au cœur du processus la personne qui est vivant avec le VIH comme telle. Donc, on doit s'assurer que ce qu'elle va dire donc et son témoignage va surpasser en fin de compte va être meilleur que tout ce qui est question qui pourrait être posée par le média comme tel. Ça évite donc de parler justement du bon ou du mauvais, de la bonne ou mauvaise personne. Aussi, on s'assure donc que le média qui demande un témoignage, en fait, on n'est pas obligé de répondre à sa demande de prime abord. Ce qu'on peut se dire, c'est que est-ce que vraiment sa demande va comme nuire à la personne qui va avec le VIH ou pas. Si ça nuit, donc on peut donc décider de ne pas chercher quelqu'un pour faire de témoignage. aussi, ce qu'on doit, nous, ce qu'on fait à la Coccida, c'est que, donc, on rencontre toujours la personne ou on lui parle au téléphone. Et là, on va lui demander, est-ce que tu penses que ça pourrait avoir un impact négatif dans ton entourage, dans ton voisinage, pour tes enfants à l'école, tes enfants à la garderie? Si oui, ben, t'es peut-être mieux de ne pas témoigner, donc, à ce moment-ci de ta vie. L'autre chose qu'on fait aussi, c'est qu'on leur propose toujours de pouvoir présenter à nous, donc simplement nous dire qu'est-ce qu'ils pensent dire. Ça leur permet de trouver les mots, donc sur leur message. Ça leur permet aussi de faire face à des écueils. Tu sais, peut-être arriver à un moment, ils disent quelque chose, puis là, ils se disent en même temps, non, je voudrais pas parler de ça. Ben, OK, là, tu sais que tu as une limite. Établis la limite comme telle que tu vois pas dans ce vers ce sujet X-là. Et donc, ça lui permet aussi de construire son discours, donc et de bien le présenter. Aussi, il ne faut pas surtout présumer que du moment qu'une personne vivant avec le VIH a fait un témoignage public, qu'elle est toujours prête à en faire un autre lorsqu'en fait une deuxième demande. Moi, je répète toujours les mêmes questions. Je le ferais même si c'était Denis Martin à qui je demanderais de faire un témoignage. Ça serait de, est-ce qu'à ce moment-ci de ta vie, c'est un bon moment de faire un témoignage? Est-ce qu'il y a du monde autour de toi qui pourrait donc, ça pourrait nuire ou ça pourrait te nuire donc par la suite? Anecdote sur ce sujet, donc j'ai accompagné quelqu'un qui a fait un témoignage pour un grand média du Québec, donc l'un des quatre grands médias du Québec. Et donc, c'était dans le cadre de saison, c'était l'été, il n'y avait pas vraiment de raison donc spéciale. Donc, moi, je m'attendais, tu sais, bon, un article qui va paraître à la page 44 du média, donc un imprimé. Eh bien non, le témoignage a été sur le cover du journal La Question avec la photo de la personne vivant avec le VIH. Et donc, cette personne-là, quand elle a revu sa famille lui a dit, ben là, il y a des voisins qui médisent contre nous, donc ça nous gêne un peu que tu paraisses dans le média, gna gna. Et là, donc, lui, il a décidé d'arrêter de faire des témoignages publics à partir de ce moment-là. Donc, je me suis fait prendre à mon propre jeu, donc j'ai oublié de demander à la personne si c'était un bon moment. En fait, donc là, c'était circonstanciel, on a quand même eu le cas, ça se ramasse dans le cover, mais n'empêche que j'aurais peut-être pu questionner un peu plus pour voir est-ce qu'il y aurait eu des chances que ça puisse nuire. Donc, voilà, c'est un peu la manière qu'on accompagne les gens, puis on les amène toujours à penser donc d'une manière positive qui elles sont et à se présenter comme étant, c'est ça, comme une personne, à présenter positivement ce qui elles sont. Voilà.
Génial. Merci, René. Et là, ça m'amène, dans le fond, Denis Martin, on peut maintenant t'entendre à la radio de Canal M dans une émission hebdo qui s'appelle « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » où tu parles de queerness, de VIH, puis d'autres sujets. Comment est-ce que tu parles de VIH dans ce contexte-là? Est-ce que c'est différent, mettons, de ton ancien job dans les médias plus traditionnels?
Ben oui. Je trouve ça intéressant de pouvoir maintenant, je me sens libéré parce que je n'ai pas les contraintes des politiques énormes et pratiques journalistiques de Radio-Canada. Elles sont là, j'avais pas le choix quand j'étais à l'emploi de m'y souscrire, mais je ne suis pas, je suis plus là maintenant. Alors, quand j'anime mon émission, je suis une personne queer et je suis une personne vivant avec le VIH et il m'arrive dans les entrevues, on parle de VIH, où je vais dire, ah, ben moi, je prends ce médicament-là dont vous parlez, et voici, et ça, je sens que j'espère, du moins pour les auditeurs, que je suis plus crédible quand je parle de VIH, parce que je sais, ça fait, on est des amis malgré nous, le VIH chez moi, depuis bientôt 20 ans, là, tu sais, quelque part, c'est une grosse amitié, pas toujours intéressante par moment, mais non, sérieusement, moi, je trouve que ça me donne le droit de poser des questions et ça me donne le droit d'établir. En début d'émission, les gens le savent très bien à qui ils parlent. Moi, je sais à qui je parle. Si tu n'aimes pas les propos ou si tu as des propos ou des façons de voir les choses qui sont anti-queer, qui sont intolérantes, qui sont anti-VIH, tu n'as pas de place dans mon émission. De toute façon, tu n'aurais pas même pas avoir de place dans la société, mais ça, c'est un autre paire de manches. Sérieusement, je trouve que comme journaliste, on ne peut pas être neutre devant des droits humains. On ne peut pas être objectif devant les droits humains. Tu ne peux pas être pour ou contre. T'es pour. Si t'es contre, t'es vraiment dans la mauvaise case. Et t'as vraiment un problème. Et ça ne devrait pas être permis dans les médias qu'on publie ce genre de commentaires-là, surtout quand ils ne sont pas dans le contexte, pour les contextualiser aussi. En fait, j'aimerais ça faire un petit peu de chemin sur ce que vient de dire René au sujet du témoignage. Moi, je crois que le témoignage, plus il y aura de personnes vivant avec le VIH qui vont témoigner, puis qui vont dire, hey, moi j'existe, là, j'en ai assez de ces affaires-là, plus ça va être difficile de discriminer contre nous, plus ça va être difficile de tenir des propos problématiques contre nous. J'y crois sincèrement. Maintenant, on ne peut pas forcer les gens à faire des témoignages. Mais moi, quand j'ai fait le mien, je me rappelle, j'ai parlé à René. Ça fait un petit bout de temps, c'était en 2016. J'ai parlé à René, il m'a bien mis en garde. Puis à un moment donné, je me suis dit, « Hey, moi, ça fait tant d'années que je vis avec le VIH, puis je me la ferme pour ne pas blesser les gens autour de moi. » Bien, c'est à peu près temps qu'eux autres comprennent c'est quoi que je souffre, c'est quoi que j'ai vécu. Et je n'ai pas demandé la permission, j'ai informé ma famille. « Vous allez entendre parler de moi et de mon VIH. » Si vous avez besoin de soutien, voici les numéros de téléphone à appeler. Je leur ai donné le numéro de la coccina. Et je me dis, ça, moi, je ne gère pas ça. Je sentais que le message que je voulais passer, bon, je ne suis pas la personne la plus extraordinaire et importante de la planète, mais je savais que j'avais de la notoriété et que mon message réveillerait un peu le monde. Alors, je suis arrivé, je dis, ça fait longtemps que vous voyez à la TV, petits amis, hein? Ben, je vis avec le VIH. Et ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée que vous pensiez en termes de VIH autrement que vous le pensiez avant. Est-ce que j'ai changé des choses? J'espère, je vais vous dire oui. J'ai eu quelques commentaires par les réseaux sociaux à l'époque de personnes qui se sont senties capables de dire à leur famille, j'avais quelqu'un qui vivait avec sa mère, qui avait le VIH, qui me dit, je me suis senti capable de lui parler à elle. Et cette personne-là se sent beaucoup mieux. Mais je me dis, ça sera la petite contribution que mon témoignage aura fait. Mais plus on va être nombreux à le faire, mieux ça va être.
Génial. Ben merci beaucoup pour justement ce témoignage. All right, Charlie. Donc, c'est fait pour notre super épisode sur les médias. Je sais pas pour toi, mais moi, je retiens vraiment cette idée-là du point de vue situé des médias, de la personne qui est dans les médias versus une fausse objectivité, en fait, qui cache plein de biais. Je pense que ça va être toujours plus intéressant si une personne raconte l'histoire du VIH et l'histoire d'une autre personne qui vit avec le VIH en partant chacun de leur point de vue situé pour pouvoir faire un dialogue entre les deux personnes plutôt que essayer de présenter une objectivité qui est fausse et qui risque de cacher bien des petites bébites.
Ouais, ben toujours continuant là-dessus, tu sais, je pense que souvent on eye roll un peu à l'usage de témoignages parce qu'on l'a peut-être un peu surutilisé, puis ben quand c'est pas les gens qui témoignent qui sont en contrôle de ce qui est gardé au montage ou à l'édition, ça donne des résultats aussi qui sont plus pour faire répondre une audience que pour visibiliser des enjeux, mais le témoignage c'est quand même un vecteur de changement. Puis, pour autant que les gens qui témoignent sont en contrôle de leur narratif, ça peut créer du beau changement, le fun. Fait que c'était tout pour notre épisode de Droit Positif. Merci d'avoir été à l'écoute, tout le monde.
Yes, donc merci aussi à nos invités d'avoir été avec nous. Merci, Denis Martin, d'avoir partagé ton expérience en tant que personne travaillant dans les médias, mais aussi en tant que personne séropositive travaillant dans les médias. Merci aussi à René d'avoir partagé ton expertise en tant que personne qui est behind the scene de tout ce monde de la communication. Merci aussi à notre super monteuse Marie Larochelle, dont vous étiez avec Hugues Lefebvre-Moras.
Et Charlie Morin.
Ciao la gang, merci d'avoir été avec nous. Bye.